Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Brain Rot, une affaire générationnelle? Un texte de Catherine Anfield paru le 22 mars 2026 dans La Presse. Le Brain Rot, ou pourriture du cerveau, décrit cette forme de détérioration de l'état mental associée à une consommation excessive de contenu numérique vide. La surconsommation d'écran peut être néfaste, soit, mais l'inverse peut aussi être vrai. Point de vue de deux chercheuses qui y voient une question de génération. Les jeunes et la pollution mentale. La technologie permet de déléguer des tâches que notre cerveau accomplissait auparavant lui-même. C'est ce qu'on appelle le délestage cognitif. Et c'est loin d'être nouveau, souligne la chercheuse Linda Pagani, qui se souvient très bien du débat qu'avait suscité l'arrivée des calculatrices dans les écoles dans les années 1970. Le visage numérique de notre société a bien changé depuis. Avec les courriels dans les années 1990, l'arrivée de Facebook vers 2007, puis d'Instagram, des algorithmes, de TikTok, tout ça a créé un animal hyper connecté, résume Linda Pagani, professeure à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, UdeM. Ce n'est pas tant le délestage cognitif qui l'inquiète. Cela permet d'en faire plus et plus rapidement, mais plutôt la pollution mentale engendrée par l'hyperconnectivité. On subit une telle pollution mentale qu'on n'a plus la capacité de départager ce qui est important de ce qui ne l'est pas. On est constamment en train de cultiver la distraction, rappelle Linda Pagani. Lorsqu'on se retrouve devant un problème, au lieu d'y faire face, on s'évade, résume-t-elle. Et ce phénomène, selon elle, concerne en particulier les jeunes. À ses yeux, la génération Z tolère en général moins l'effort et les émotions négatives à cause de cette facilité associée au numérique et à cause de la façon dont ils ont été élevés, protégés de l'effort et des contrariétés. Lorsqu'on tend à fuir l'effort, certaines régions du cerveau semblent s'adapter. Ce serait le cas du cortex singulaire antérieur dorsal, une zone du cerveau que des chercheurs estiment être le siège de la ténacité. Moins on la sollicite, moins elle serait épaisse, indique Linda Pagani. Selon les travaux de la professeure Véronique Bobot de l'Université McGill, la surconsommation de jeux d'action ou le recours constant au GPS en voiture pourrait avoir un impact sur l'hippocampe, une zone du cerveau essentielle à la mémoire. Quand on parle de brain rot, je pense qu'il faut faire une analyse générationnelle, conclut Linda Pagani. Chez les jeunes générations, l'hyperconnectivité a un autre effet pervers sur le langage. La recherche récente tente à démontrer que plus les parents ont le nez collé à leurs écrans, moins ils parlent à leurs enfants et moins ceux-ci ont un vocabulaire riche. L'effet protecteur chez les aînés. Le défilement de vidéos sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle qui donne les réponses tout de suite dans le bec, avec l'Internet, sommes-nous en train collectivement de nous ramollir le cerveau? Ça dépend de quelle génération vous parlez. Parce que pour les personnes âgées, l'Internet peut ouvrir tout un horizon sur un tas de choses stimulantes intellectuellement, souligne Sylvie Belleville. Trop de technologies numériques, ce n'est pas l'idéal. Mais trop peu, ce n'est pas l'idéal non plus, souligne Sylvie Belleville, professeure de psychologie à l'Université de Montréal. Et les personnes âgées ont plutôt tendance à s'inscrire dans cette deuxième catégorie, dit-elle. Pour elles, on a en quelque sorte le problème inverse des jeunes, observe Sylvie Belleville. Des aînés craignent l'informatique, s'en tiennent loin. Paradoxalement, l'utilisation de l'Internet chez les aînés semble protéger la cognition. Selon des recherches récentes publiées en 2023 et 2025, les utilisateurs assidus de l'Internet présentent un risque de troubles cognitifs et de démence environ deux fois moins élevé que les non-utilisateurs ou les faibles utilisateurs. Est-ce que l'usage de l'Internet protège le cerveau ou est-ce que les personnes qui sont saines cognitivement ont plus tendance à utiliser l'Internet? La relation va probablement dans les deux sens, selon les chercheurs. L'Internet permet de rechercher de l'information, de naviguer sur les sites d'information, de communiquer avec ses proches, de se connecter au monde administratif. Mais les personnes âgées peuvent aussi se perdre devant Candy Crush ou une défilante de vidéos de chatons, non? Tout dépend de comment on l'utilise et pour quelles raisons, convient Sylvie Belleville. Pour garder un cerveau en santé, dit-elle, les études sont claires. Mieux vaut miser sur une diversité d'activités. Il ne faut pas toujours rester dans sa zone de confort, illustre Sylvie Belleville. C'est un principe très important en neuroplasticité. Il faut toujours augmenter un peu le niveau de difficulté. Dans l'étude de 2023, les chercheurs suggèrent une plage d'utilisation idéale de l'Internet entre 6 minutes et 2 heures par jour. Ce serait le temps nécessaire pour stimuler le cerveau sans se désengager du monde réel. C'était le Brain Rot, une affaire générationnelle, un texte de Catherine Anfield, paru le 22 mars 2026 dans la presse.
Un Québec fou de ses VUS, un texte de Marco Fortier, paru le 9 mars 2026 dans Le Devoir. Pourquoi les routes sont-elles si congestionnées et les chaussées en si mauvais état? Une bonne partie de la réponse est simple, parce que le nombre de véhicules immatriculés au Québec a explosé depuis une trentaine d'années. Nous sommes dépendants de l'automobile, plus précisément des VUS, véhicules utilitaires sport, plus gros, plus lourds et qui coûtent une fortune. La culture du char, dans toute sa splendeur, en somme. Les plus récents chiffres sur la mobilité confirment la tendance à l'auto-obésité. Le parc de véhicules de promenade a augmenté de 53 % au Québec de 1990 à 2023, une hausse près de deux fois celle de la croissance démographique, plus 29 %, selon le rapport « L'état de l'énergie au Québec 2026 ». Cette progression spectaculaire est due à l'engouement pour les VUS et les camionnettes, dont le nombre a bondi de 382 %. Le parc de simples automobiles a diminué de 4 % durant la même période. La croissance du transport de marchandises par camion est encore plus marquée. Le nombre de camions de transport ou de livraison immatriculés au Québec a augmenté de 219 % en 23 ans. Ces mastodontes amplifient la congestion routière et contribuent à l'état déplorable des chaussées, selon les experts. Catherine Morancy, titulaire de deux chaires de recherche en mobilité à Polytechnique Montréal, soupire quand on lui soumet ces statistiques. Cet ingénieur ausculte depuis des années la culture de l'automobile qui sévit au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord. Des voitures aux allures de tank. La professeure explique que des chercheurs européens ont inventé un mot pour décrire la prolifération des gros VUS, la tankérisation du parc automobile. Les véhicules prennent l'allure de tank. Ils deviennent des chars d'assaut. J'aime beaucoup ce mot. Il décrit les impacts sur la congestion routière, sur la perte de capacité de stationnement, sur la dangerosité des collisions et sur la consommation d'énergie des VUS, y compris les véhicules électriques, dit-elle au Devoir. Les bouchons de circulation tant décriés par les automobilistes, à Montréal et ailleurs au Québec, sont causés d'abord et avant tout par l'explosion du nombre de véhicules motorisés, souligne Catherine Morancy. Elle précise que cette affirmation n'est pas une opinion, mais un fait établi par une démarche scientifique. Et la tankérisation, cette taille grandissante des véhicules, aggrave la congestion. L'ingénieur et son équipe ont comparé les temps mis pour parcourir 5 km sur une voie d'autoroute affichant une limite de vitesse de 100 km/h, avec différents types de véhicules et différents débits de circulation. Une Smart, cette mini-voiture à deux places, parcourrait cette distance en 3 minutes et demie avec un débit de 3500 véhicules à l'heure, qui seraient tous des Smart. Si ces 3500 véhicules étaient des Ford Expedition, le temps de déplacement passerait à près de 11 minutes. L'auto-obésité peut aussi faire perdre des cases de stationnement. Catherine Morancy et ses collègues ont étudié la capacité de garer des voitures sur rue dans 5 arrondissements montréalais. Ils concluent qu'en augmentant la longueur des cases pour accueillir un véhicule de 5 mètres à 5,5 mètres, ces quartiers perdraient une capacité de stationnement de 10 %, soit 24 427 places en moins. Une augmentation de 5 mètres à 6,5 mètres entraînerait quant à elle une diminution de 25 % de la capacité de stationnement sur rue, soit 61 702 cases. Rééquilibrer l'espace public. Davantage de camions et de voitures qui sont plus grosses, mais pas davantage de rues. La congestion, c'est mathématique, résume Hugo Quintin, chargé de projet au Centre d'écologie urbaine. Pour réduire la congestion routière et améliorer la sécurité des usagers les plus vulnérables, il n'y a pas de solution magique dans une ville à forte densité comme Montréal. Il faut réduire le nombre de voitures en circulation, en offrant un service de transport collectif digne de ce nom et en réduisant l'espace public accordé aux voitures, souligne-t-il. Le but de l'opération est d'encourager les gens à prendre le bus, à marcher ou à utiliser leur vélo plutôt que de venir encombrer les rues en auto. Ce rééquilibrage de l'espace de voirie en milieu urbain, c'est le combat de la professeure Catherine Morancy. Pas pour faire plaisir aux cyclistes, mais pour la mobilité de tout le monde, précise-t-elle. Le raisonnement est simple. Les pistes cyclables permettent à beaucoup de monde de se déplacer dans un espace beaucoup plus restreint que les rues. Un seul bus peut aussi déplacer jusqu'à 50 personnes de plus qu'une voiture. Les Montréalais qui se plaignent qu'il y a trop de pistes cyclables semblent aussi oublier que les véhicules motorisés occupent la part du lion des chaussées. Les experts de Polytechnique ont calculé en 2021 que 71 % de l'espace de voirie est consacré aux autos, 2 % aux vélos, 17 % aux piétons et 3 % aux autobus, dans les grandes artères de la métropole. La place des véhicules motorisés est encore plus grande dans les rues locales, 75 % de l'espace de voirie. Audi des pistes cyclables. La nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a invité la professeure de Polytechnique à discuter de mobilité avant de remporter la course à la mairie, en novembre dernier. Catherine Morancy affirme avoir dit à la chef d'ensemble Montréal que son fameux Audi sur la mobilité devrait porter sur l'ensemble des modes de déplacement et non uniquement sur les pistes cyclables. Les principaux facteurs de risque en matière de mobilité sont la taille des véhicules, le nombre de véhicules et la vitesse, affirme l'ingénieur. Je pense que de questionner à qui on donne de l'espace sur la voie publique, c'est une bonne idée, mais on ne peut pas questionner l'espace d'un seul usage comme le vélo. Pour moi, ça manque de logique. Peut-être que c'est la voie de stationnement qui n'a pas d'affaire là. Peut-être que ce sont les opérations de livraison. Peut-être que c'est la station de Bixi. Il faut regarder l'ensemble des réseaux. Il faut qu'il y ait cohérence dans les usages, fait valoir l'ingénieur. Il n'y a pas qu'à Montréal que les voitures accaparent la majorité des ressources en mobilité, déplore Hugo Quintin du Centre d'écologie urbaine. Il note que 70 % des investissements en transport du budget 2025 du Québec allaient aux routes, contre 30 % au transport collectif. En Ontario, c'est la proportion inverse. Encourager la congestion. La professeure Catherine Morancy juge sévèrement le bilan du gouvernement Legault en matière de mobilité, entaché par des projets comme le troisième lien à Québec. C'est n'importe quoi. Il ne finance pas le transport en commun intelligemment. Il finance des projets farfelus d'infrastructures qu'on ne pourra jamais se payer et qui n'ont aucun fondement, dit-elle. Le Québec mise encore largement sur l'auto, déplore Catherine Morancy. Les usagers des transports en commun financent environ 30 % du service en achetant des billets de bus ou de métro. Mais les routes, elles, sont financées par tous les contribuables. Les infrastructures routières nous coûtent extrêmement cher et plus on met de fonds publics, plus on favorise l'acquisition de véhicules. On enrichit les constructeurs d'automobiles, dit-elle. Les données scientifiques démontrent pourtant que la culture de l'automobile entraîne de la congestion automobile. Dans l'espoir d'éliminer les bouchons de circulation, le Texas a ainsi élargi la Katy Freeway à Houston à 26 voies, 13 de chaque côté, nombre incluant les voies de service. Résultat, la congestion et les temps de déplacement ont augmenté. Plus on ajoute de voies de circulation, plus les conducteurs croient que la circulation sera fluide et plus de gens prennent leur char. C'était Un Québec fou de ses VUS, un texte de Marco Fortier paru le 9 mars 2026 dans Le Devoir.
Enfin, la pause démographique. Un texte de Jean-François Lisé, paru le 25 mars 2026 dans Le Devoir. C'est net, nous serons moins nombreux au Québec en 2027 qu'en 2025. Ce sera vrai encore l'année suivante, jusqu'en 2029. Puis la population sera essentiellement stable jusqu'en 2051. Vous ne le lirez nulle part ailleurs qu'ici. C'est une excellente nouvelle. D'abord, parce que nous avons vécu, plus précisément parce qu'on nous a imposé, une explosion démographique catastrophique ces dernières années. Au total, la population québécoise est passée de 8 millions de personnes en 2012 à 9 millions. En 2025. Pensez-y. Caser 1 million de personnes de plus dans des logements, dans des écoles, dans des soins de santé et partout ailleurs dans les services publics. Pas étonnant que tous nos systèmes aient été poussés près du point de rupture. La pause démographique que l'Institut de la statistique du Québec nous annonce est donc bienvenue. Nous sommes un peu comme le serpent qui avale un éléphant. Il nous faut un temps de digestion. Dans le scénario de référence de l'Institut, le plus probable, après avoir atteint 9,1 millions cette année, la population variera entre 9 millions et 9,2 millions pendant le prochain quart de siècle. Et cela n'a pas que des avantages, j'y reviendrai. Mais ces avantages existent, et on n'en parle presque jamais. L'atténuation de la crise du logement. La réduction de la demande observée depuis 2025 a déjà produit une baisse des prix des logements. Une population stable ne rend pas la demande nulle. Les divorces sont un facteur. Mais une poussée de la construction pourra, peu à peu, finir par absorber la demande. Ces dernières années, l'augmentation du prix des logements fut la principale cause de la flambée de la précarité, de l'itinérance et de l'utilisation des banques alimentaires. Les retombées sociales bénéfiques de la pause démographique sont donc inestimables. La réduction des inégalités. Rien n'est plus efficace qu'une pénurie de main-d'œuvre, induite par une pause démographique, pour obtenir un marché de l'emploi plus inclusif et plus payant. Les employeurs, en manque, augmentent les salaires et améliorent les conditions de travail. Sont contraints d'examiner tous les CV, quelle que soit la consonance du nom de famille, et trouvent même des attraits à l'embauche de personnes handicapées. Le chômage est jugulé, tout comme la pauvreté et le recours à l'assistance sociale. La réduction de l'étalement urbain. Si la population n'augmente plus, la pression sur le territoire agricole s'amenuise. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir de nouveaux quartiers, de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles routes. se concentrer sur l'entretien. Le secteur de la construction, dont les capacités sont limitées, peut se concentrer sur la réfection et la rénovation. Les budgets gouvernementaux d'infrastructures aussi. Les actifs et les passifs. Les pessimistes ont très peur qu'avec le vieillissement, le nombre de citoyens actifs par rapport au nombre de retraités soit en trop grand déséquilibre. C'est une vraie question, mais cette crainte fut maintes fois évoquée au cours des décennies et fut toujours contrariée par la réalité. Le vieillissement s'est notamment accompagné d'un allongement significatif de l'activité économique des plus de 65 ans. Oui, mais la croissance? Des économistes estiment que tout cela va réduire la croissance du produit intérieur brut total. Les organisations patronales affirment que tout cela est une catastrophe pour les entreprises, car l'augmentation de leur production est freinée par leur incapacité d'importer des salariés. En effet, mais cela les force à se tourner vers l'augmentation de leur productivité, l'automation et la robotisation. Ce faisant, la richesse totale n'augmente pas aussi vite, mais la richesse par habitant, oui. Pour résumer, si vous êtes un produit intérieur brut, c'est une mauvaise nouvelle. Si vous êtes une personne, c'est une bonne nouvelle. L'incidence de l'intelligence artificielle. Nous entrons dans une phase totalement imprévisible de destruction de l'emploi par l'intelligence artificielle. Les experts débattent de la réalité, de la rapidité et de l'ampleur de ce bouleversement. Chez nous, l'Institut du Québec estime que 18 % des emplois québécois y sont vulnérables, taux qui grimpe à 24 % chez les jeunes. Il est donc impératif que nous ne soyons pas en surplus de population et de main-d'œuvre. Savoir s'adapter. Selon les scénarios démographiques, certaines régions vont décroître. Montréal, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, l'Abitibi, la Côte-Nord. Et toutes les autres vont croître. Plutôt que de tenter de renverser la tendance, l'État a intérêt à l'accompagner. Le télétravail et la régionalisation des tâches gouvernementales sont des outils permettant d'amortir le choc dans les régions à risque. La pyramide des âges. Il y a davantage de vieux et moins d'enfants. On peut s'en désoler ou penser qu'il y aura enfin assez de places en CPE pour tout le monde, qu'on pourra réduire le nombre d'élèves par classe et mieux accompagner chacun de nos bambins. La croissance, économique ou démographique, n'est pas un projet en soi, sauf pour les adeptes du gigantisme. Le projet est la qualité de vie de chacun, l'épanouissement individuel et collectif, la poursuite du bonheur. On est 9 millions. On peut y arriver. C'était, enfin, la pause démographique. Un texte de Jean-François Lisée, paru le 25 mars 2026 dans Le Devoir.
Google ajoute des garde-fous à son IA pour prévenir la dépendance des jeunes. Paru le 7 avril sur tvanouvelles.ca. Google a dévoilé mardi une série de modifications censées empêcher son assistant d'intelligence artificielle, IA générative, de se comporter en compagnon et de risquer de rendre les jeunes dépendants à son interface. Ces garde-fous doivent notamment interdire à Gemini de prétendre être humain ou posséder des attributs humains, a expliqué la filiale d'Alphabet dans un communiqué. Google a ajouté à son modèle des protections conçues pour prévenir la dépendance émotionnelle, éviter tout langage qui simule l'intimité ou exprime des besoins, a ajouté le groupe de Mountain View, Californie. Les interactions entre adolescents et applications d'IA générative sont un sujet de préoccupation pour de nombreux parents, associations et élus. En avril 2025, l'ONG américaine Common Sense a recommandé d'interdire aux mineurs les interfaces d'IA se présentant comme des compagnons virtuels, notamment Character, A-I-N, Replica. S'ils ne sont pas conçus ou promus de cette façon, les assistants IA les plus connus comme ChatGPT, Claude ou Gemini sont aussi utilisés comme tels par de nombreux adolescents. Un tiers des 13-17 ans interrogés dans le cadre d'une étude commandée au printemps 2025 par Common Sense indiquait se servir de ces logiciels IA pour des interactions sociales et des relations. En janvier, Google et Character AI ont conclu des accords amiables pour solder des poursuites lancées par des familles accusant des robots conversationnels de nuire à des mineurs et d'avoir contribué au suicide de l'un d'entre eux. Mardi toujours, Google a également annoncé de nouvelles fonctionnalités en matière de santé mentale pour les utilisateurs de Gemini. Si l'interface détecte des signes selon lesquels l'internaute songe au suicide ou à l'automutilation, elle fera apparaître un lien direct vers un centre de soutien psychologique, en ligne ou téléphonique. Gemini peut être un outil utile pour apprendre et trouver de l'information. Ce n'est pas un substitut à l'intervention d'un professionnel de santé, à une thérapie ou un soutien en cas de crise, souligne Google. En cas d'alerte, Gemini a été entraîné à répondre de façon appropriée en orientant l'utilisateur vers une assistance humaine. C'était « Google ajoute des garde-fous à son IA pour prévenir la dépendance des jeunes » paru le 7 avril sur tvanouvelles.ca.